Allô, allô, je suis tellement heureuse que vous êtes ici pour mon podcast Comedy Nerd. Je m'appelle Rachel Ellie. Je suis une humoriste anglophone et francophone. Ça fait 25 ans que je fais l'humour en anglais et maintenant 2 ans que je travaille en français. Je suis tellement excitée que vous êtes ici pour écouter mon podcast. Je voulais dire un petit shout-out à tout le monde à Montréal, Toronto, Hamilton, Almont, Ottawa, Brampton et Moncton, les gens au Canada qui écoutent le podcast. Je sais aussi qu'on a plusieurs personnes, presque 45 % de notre public qui écoute sont en Europe. Alors, merci tout le monde à Paris, autour de France et tout le monde aux États-Unis aussi. Les gens au Texas, Ohio et Virginia qui écoutent aussi, qui écoutent ce podcast. Merci beaucoup. Et un petit shout-out à les gens à Dakar, Sénégal et aussi aux United Arab Emirates. Wow! Incroyable! Merci pour écouter le podcast. Si vous êtes intéressé à me voir sur scène, je fais le Festival d'humour à Gatineau le 11 septembre et je vais faire ma première heure de humour bilingue à Montréal. J'ai plusieurs dates en juillet et août au Théâtre Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Et si vous voulez savoir mes dates pour juillet et août, vous pouvez aller à mon website rachelellie.com pour mes dates. Et aussi, vous pouvez m'envoyer un courriel à crowningmonkey@yahoo.ca, crowningmonkey@yahoo.ca. J'envoie des courriels chaque 2 semaines pour informer tous mes fans des shows que je fais et des fois vous pouvez gagner des billets aussi. Pour ma 3e épisode de Comedy Nerd, j'ai fait une interview avec gérant Michel Grenier. Ça fait 25 ans qu'il est un gérant des artistes, 25 ans qu'il travaille dans l'humour. Merci encore pour venir à Comedy Nerd et j'espère que vous allez bien aimer ce épisode avec Michel Grenier. Merci. Can't stop, won't stop. Well, hello, hello, Michel. Hello. Ça va bien?
Oui, est-ce qu'on part là?
Oui, on part là.
Super. Woohoo. Vas-y, je t'écoute.
OK. J'ai vu le show de Mike à Gatineau en 2019. Et hier, j'ai vu Henry et Simon de 2008.
Oui, oui, oui.
Alors, c'était bien pour moi de voir vraiment comment Mike a évolué comme artiste. Et je me demande, comme gérant, comment est-ce que tu continues à évoluer avec tes artistes, de grandir avec tes artistes?
Bien, je pense que la façon d'évoluer pour un gérant est un peu la même que pour évoluer pour un artiste, c'est-à-dire faut que tu ailles dans des bars, faut que tu ailles voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Comme moi, tous les nouveaux humoristes, je les connais, je les ai vus en show, j'ai 52 ans, puis je continue d'aller dans des soirées open mic. Fait que je connais des gens que par année, ils font 600 piastres avec l'humour. Moi, j'y connais. Tu sais, fait que dans le sens que si tu veux savoir où tu t'en vas, si tu veux savoir où est-ce que ton artiste va, les différents courants, les différentes influences, je te dis pas d'écouter ceux qui sont déjà arrivés. Faut que tu écoutes ceux qui s'en viennent. Tu sais, les nouveaux artistes, ils ont faim. Ils jouent à tous les soirs. Il y a milliards, ils craftent leur affaire. Tandis que souvent, les artistes établis vont arriver dans une zone de confort, tu sais, famille, maison. Fait qu'ils vont prendre moins de risques. Fait que des artistes, je te dis pas que c'est tous les artistes. Les artistes, en général, vont tenter de stabiliser leur espèce d'avoir, leur network. Ils vont essayer de faire comme, OK, ça, c'est moi, puis c'est avec ça, je gagne ma vie. Tandis que au niveau des gérants, pour se tenir à jour, moi, je pense qu'il faut que tu continues de voir de l'humour, il faut que tu vois les artistes. Je vais dire un terme qui est pas bon, mais les artistes compétiteurs, mais je devrais dire les collègues, tu sais, les collègues de travail à ton artiste, pour voir si l'artiste fait fausse route, s'il va dans la bonne direction, il faut que tu sois au courant de qu'est-ce qui s'en vient. Pour être un bon gérant et pour évoluer avec ton artiste, il faut que tu fasses un peu le même genre de travail que l'artiste fait au niveau créatif, c'est-à-dire toujours te tenir au courant des nouvelles tendances.
Mais est-ce que tu savais ça toujours ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris?
Parce que ça fait...
Ça fait 25 ans que tu es un gérant?
Ça fait... Honnêtement, là, la première fois que j'ai eu contact avec l'humour, je suis gérant, je suis monté sur scène avec les Chicken Swell, qui sont un band absurde, c'est un peu à la Monty Python, et je suis monté sur scène avec eux le 6 juin 90. Fait que tu vois, ça va faire 31 ans que c'est la première fois que j'étais avec les Chicken Swell sur scène. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec eux. Après ça, là, Mike est arrivé, puis ainsi de suite. Fait que là, tu sais, je te dirais, juste moi puis Mike, on se connaît depuis 27 ans. Ça fait 27 ans qu'on se connaît, mais que je le gère, ça doit faire 26 peut-être. Hey, c'est long, là.
C'est ça. Mais j'ai vu que tu travailles, ça fait longtemps que tu travailles avec ton frère aussi.
Oui, c'est ça.
C'était au commencement aussi avec ton frère.
Mon frère fait partie des... il est un membre fondateur des Chicken Swell. Et mon frère fait partie de ce groupe-là. Donc, c'est ce qui m'a apporté un peu à l'humour.
Et j'ai vu un de ses vidéos, deux vidéos, « Je suis bien » et « Le coureur de fond ».
Ouais, mais ça, c'était parce qu'il y a un moment donné, dans les Chicken Swell, c'était toujours de l'humour. Puis Daniel est extrêmement créatif. Fait que c'est dit, faut que je fasse des chansons sérieuses. C'est quand t'es humoriste, tu sais, faire rire, mais il y a des artistes, tu sais, les humoristes, c'est des grands sensibles, tu sais. Ils disent pas, ils ont comme leur carapace de confiance. Le soir, vous embarquez sur scène, puis on dirait que personne peut vous atteindre. Mais au contraire, vous êtes facilement atteignable. Et je pense que Daniel avait besoin de exprimer son côté sérieux avec ça, parce que c'était humour tout le temps. Et il a composé ces chansons-là, entre autres, tu sais, « Je suis bien », tout ça. C'était un peu en même temps que les Chicken Swell étaient à la télévision de 2001, 2002 et 2003. Puis, c'est ça, Daniel, il avait besoin de ce côté-là plus sérieux. Mais là, quand les Chicken Swell ont terminé en 2013, là, Daniel a commencé seul sur scène. Mais comme tu disais, il faut réapprendre le métier totalement. T'sais, avec l'arrivée des réseaux sociaux, next level. Ça fait en sorte qu'un artiste, dans les années 70, 80, c'était même 90, c'était un producteur qui mettait une grosse somme derrière quelqu'un. Mais avec l'arrivée de Facebook en 2007-2008, l'arrivée du premier iPhone en 2007, et là, la game a comme changé à ce moment-là. Tu sais, au début, Facebook, c'était comme gratuit, fait que les gens faisaient de la promotion là-dessus littéralement dans ce temps-là. Au niveau de Facebook, si tu avais 100 followers, puis tu disais « ce soir, je t'en show à telle place », rejoignais 100 personnes. Aujourd'hui, tu rejoins plus 100 personnes. Tu rejoins peut-être un 5 à 10% de clientèle dans tes fans. Ce qui veut dire que tu as un gars comme Mike Ward, justement, qui a 350 000 fans, ben quand il décide de faire une publication, il y en a 35 000 qu'il voit. T'sais, c'est fou quand même que t'as. Fait que ça a baissé avec le temps, fait que les manières, on a dû s'adapter. Mais là, aujourd'hui, un artiste en 2021, t'as pas le choix d'être un peu présent sur toutes les plateformes. T'sais. Dans les années 90, tu vas dire qu'il n'y en avait pas, mais t'sais, les artistes, il y avait une autre façon de travailler, t'sais, comme Daniel Lemire ou Yvon Deschamps faisait des shows, puis on les voyait un peu à la télé, puis Juste pour rire est important. Si tu remportais la révélation de Juste pour rire avant 98, je te dirais avant 2000, quand on gagnait la révélation de Juste pour rire, ça voulait réellement dire quelque chose. Aujourd'hui, des artistes qui arrivent de tout bord, tout côté, des concours, tu sais, en 2010, dans les alentours de 2010, il y a eu un concours en route vers mon premier gala qui a été remporté. Les 5 premières éditions étaient remportées par des gens qui n'ont pas fait l'École nationale de l'humour. Tu sais, avant aussi, l'École nationale de l'humour, c'était quand même très important. Aujourd'hui, il y a plusieurs chemins possibles à un humoriste. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'humoristes. Donc, il faut se tenir au courant de tout le monde qu'il y a. Il manque de gérants. Il n'y a pas assez de gens. Mais c'est un métier c'est un métier vraiment difficile.
Et avec ton frère, parce que moi, j'ai un frère qui est musicien, et il y avait des moments, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, il essayait de jouer les publicités de télévision. J'étais comme, arrête de jouer ta musique. Est-ce que tu avais des moments où tu étais vraiment comme, arrête de jouer?
Non, Non, tu sais, non. Moi, pour moi, tu sais, on n'a pas eu une relation, tu sais, au niveau frère. J'ai pas eu une relation qui me gosse. Tu sais, puis ma mère, c'est drôle parce que, tu sais, c'est bizarre ce que je vais te dire là, mais pour ma mère, c'est une de ses plus grandes fiertés que ses fils travaillent ensemble. Mais tant que t'es pas parent...
C'est pas bizarre que ta mère sent comme ça. Pour moi, c'est mes enfants travaillent ensemble, ils ont un landscaping compagnie. Je suis comme, oh, mes fils peuvent travailler ensemble. Et ça, c'est qu'est-ce que je voulais te demander. C'est quoi le secret? Parce que beaucoup de personnes disent, travaille pas avec ta famille. Mais maintenant, ça fait presque 30 ans que tu travailles avec ton frère. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y avait des défis, des fois que tu disais, non, c'est trop personnel, on doit être plus professionnel?
Non, ça prend juste une bonne mère. Ça prend juste une bonne mère. Je pense que il faut que en tant que frère ou en tant, c'est ça qu'ils disent, tu sais, jamais mélanger la business avec la famille, tu sais, parce que ça devient compliqué parce que il y a un lien de plus qui vient de chercher. Tu comprends ce que je veux dire? Déjà, mes artistes, c'est comme mes enfants. Tu sais, je me battrais pour eux, là, tu sais. Fait que mes artistes, je suis extrêmement fier. Je me battrais pour eux. Mon frère, je te dis pas que je me bats plus, mais il y a quand même, tu peux jamais oublier dans le background l'espèce de fil que c'est ton frère. Tu sais, tu comprends? Il y a comme un lien par le sang. Tu sais, je le revois à Noël. Tu sais, c'est vraiment des gens qui sont importants, puis je suis fier de les représenter. Puis je suis vraiment heureux. Puis dans le cas de mon frère, c'est sûr, ça me fait quoi? Mais l'affaire qui est drôle, je vais te dire de quoi, là. L'affaire qui est drôle avec mon frère, c'est que il me dit, moi, j'ai déjà dit ça en joke, puis c'est, je le pense vraiment, là. Moi, dans ma vie, je me suis peut-être fait dire, mettons, 150 fois que j'étais un bon gérant. Mais par mes artistes, je me l'ai fait dire genre 4 fois. Tu sais. Mes artistes, ils trouvent pas si fantastique que ça. Mais c'est drôle parce que ce qui est l'avantage de gérer ton frère, c'est que il dit à ma mère, « Hey, Michel, il est vraiment bon, puis il est respecté à Montréal, dans le milieu. » Fait que, par ma mère, je sais que je fais un bon travail.
Mais tu comprends, ça, c'est qu'est-ce que tu veux. Oui, tu veux que ta mère pense que tu fais du bon travail.
Non, je veux pas que ma mère... Ben oui, je veux que ma mère pense que je fais du bon travail, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même spécial que, tu sais, quand les gens se rendent compte, tout le monde se rend compte de quelque chose, sauf toi, mais pour toi, c'est un acquis. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, tu sais, dans ta vie, tu sais, mettons, je remets ça à la vie de tout le monde. Tu sais, mettons, ton partenaire dans la vie, tu sais, t'es en couple avec quelqu'un, c'est spécial quand même que tous tes amis viennent te voir et te disent, « Hey, ta femme, là, est cool en tabarnouche. » Mais tu dis pas à ta femme qu'elle est cool, tu sais, fait que va y dire qu'elle est cool. Mais là, si tu dis trop, elle va te trouver gossant, tu sais, puis elle va dire, pourquoi tu me dis tant que ça que je suis cool, c'est-tu parce que t'as quelque chose à te reprocher? Tu sais, fait que, il y a tout le temps quelque chose là-dedans avec le fait de, ils me prennent pour acquis. Tu sais, ils savent que je vais livrer la job, puis ils savent que, tu sais, je nommerai pas de nom, mais il y a certains gérants qui se présentent pas aux premières de leur artiste, OK? Puis moi, je suis là pas juste à la première, je suis là tout le temps. T'sais, tu comprends, tu sais, comme là, juste avant notre podcast, ben j'ai reçu un appel d'un de mes artistes, je dis « Hey, à soir, je vais être à ton show. » Il a pas fait comme « Ah, ouais! »
Non, j'ai entendu ça, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas normal. »
Ouais, c'est ça, j'ai fait « Ah, je vais être là, à soir. » Puis là, il a fait « OK! » Mais tu sais, comprends-tu, pour lui, c'est comme, je suis pas en train de le jeter à terre, là. Tu sais, je suis pas en train de...
Non, je comprends, mais c'est la même chose. Ça, c'est parce que je te demandais, est-ce que c'est difficile, personnel, professionnel? Parce que je trouve avec ma famille aussi, des fois, quand je chicane avec ma sœur ou mon frère, on va dire... Tu dois me traiter comme un ami, pas comme ton frère ou ta sœur, parce que c'est difficile des fois, comme tu as dit, acquis, ça c'est nouveau pour moi, prendre avantage, I guess, like taking
non,
advantage
c'est pas,
of.
C'est pas avantage, c'est prendre pour acquis, c'est
taking
comme,
for granted.
Exemple, take it for granted.
Taking for granted. Parce qu'on fait ça avec des personnes qu'on est vraiment proches avec, et il y a un livre qui s'appelle Love Languages, et c'est intéressant parce que tu disais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui te disent « Hey, merci, tu fais un très bon job avec moi. J'adore travailler avec toi. » Mais pour moi, je suis vraiment... Les mots sont très importants pour moi. Ça, c'est un de mes love languages. Un autre, peut-être, c'est des actions. Comme tu vas ce soir pour voir une artiste. Ça, c'est un act of service. Tu vas pour dire « Moi, je suis ici. je montre mon support. Mais pour moi, je suis vraiment, j'aime quand mon mari me dit « je t'adore ». Alors, oui, il sait que… Mais pour lui, c'est pas naturel. Ah, mais okay. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, 25 ans, et maintenant, il sait que il peut juste dire « je t'adore », moi, je vais être heureuse pour 2 jours. Et pour lui, si je vais, si je dis que je vais fixer ses souliers, je vais aller apporter ses souliers, pour 1 mois, il va être très heureux.
OK. Mais yeah. C'est ça, on oublie souvent, comme tu dis, le love language, mais dans le sens que ça fait, c'est que, tu sais, en tant que, surtout dans le domaine artistique, gérer des carrières, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Moi, yeah. Dans le sens que, c'est bizarre ce que je vais te dire là, mais aujourd'hui, je sens que je vais être plus respecté dans 10 ans qu'aujourd'hui. Mm. On dirait que la carrière d'un gérant, c'est à la fin que tu la regardes. Tu sais, comme avec Céline, il y avait Renan Gélil. Mais j'ai l'impression que René, on l'a toujours connu vieux. Mais pourtant, quand il était jeune, il était dans des bandes de musique. Mais tu sais, le René qui fait peur, le René impressionnant, imposant, c'est le René vieux. Tu sais, fait que j'ai l'impression que je vais, dans 10 ans, je pense que je vais être plus respecté qu'aujourd'hui. Ou peut-être
mais,
moins.
Mais je me demande, parce que tu as des artistes qui sont des célébrités.
Oui.
Did I say that right? Ouais, célébrité?
Oui, célébrité. Oui.
Célébrité. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des moments que tu sens comme un célébrité?
Bien, c'est sûr et certain qu'au niveau des gérants, je suis un gérant qui n'a pas de crainte à m'exposer. Tu sais, j'ai pas de crainte à, tu sais, comme tu m'as invité sur ton podcast. Puis toutes les personnes qui m'invitent, je le dis tout le temps, c'est parce que au début de Sous-Écoute, quand venait le temps d'inviter les gens à venir sur dans le début de ma carrière, quand je voulais inviter les gens à venir dans le podcast, Colin, c'était dur, puis j'avais de la misère à trouver du monde, puis c'était difficile, tu comprends? C'est comme toi, tu vas voir, des gens vont dire, « Ouais, non, OK, ouais, mais là, telle heure, tu comprends-tu? » C'est ça, la vie. Moi, j'essaye de dire oui, puis en même temps aussi, le fait que Mike soit un gars très médiatisé, puis Mike, c'est le podcast le plus populaire au Canada, toutes langues confondues, puis en Amérique du Nord, puis tu sais, on a 2 millions de views par mois, 1.8 dans ce coin-là, là, 2 millions de personnes qui nous écoutent par mois. Fait que là, puis Mike, dans ses podcasts, il dit souvent, « Ah, j'étais avec Michel. Michel était là. » Fait que là, les gens font comme, « OK, Michel, tu sais, who is Michel? »
Qui est Michel?
Exact,
who the F is Michael?
exact. Fait que les gens veulent savoir et en même temps, j'ai pas de gêne à parler de mon métier. C'est un métier qui est... C'est un peu ça. J'ai fait une série sur les réseaux sociaux qui s'appelait Backstage avec Michel Grenier. Et cette série-là, pour moi, c'était juste pour les artistes, justement, qui n'ont pas de gérant ou pour aider les personnes à comprendre notre métier. Fait que quand quelqu'un me dit « Hey, j'aimerais ça avoir... » Parce que là, en passant, mes trois derniers Backstage, mais mes 3 avant-derniers, c'était tout sur le monde du podcast. C'était comment être un bon animateur de podcast. C'était comment être un bon invité de podcast. Puis c'était comment être un bon invité, comment être un bon... Et comment inviter les gens à ton podcast.
Oui, j'ai vu tous ces épisodes. Merci, Michel.
Ça fait plaisir.
Mais tu as dit « build it and they will come ». C'est que tu as dit ça. Et tu l'as dit en anglais aussi.
En anglais, c'était pour toi. Yeah. C'était pour toi.
Merci.
Mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est comme les gens, ils arrivent tout de suite, leur premier podcast. Fait, bon, je vais faire un podcast. OK, avec qui? Mike Ward. Attends, c'est quoi tu parles? De quoi tu parles? T'sais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu aies un peu langue, faut que tu aies un peu c'est quoi, combien de temps ça dure. Donne-moi de l'info. C'est vraiment bizarre parce que moi, je suis habitué aussi. Faut comprendre que quand tu veux te mettre à inviter des grosses pointures sur ton podcast, c'est même pas une joke que je te dis. Là. Ils sont habitués à voici le choix de repas. Rentrer par la porte 43.
Oui.
Tu comprends-tu? Oui. Sur place, Sabrina va vous accueillir et vous dirigera à votre loge. Puis là,
avec les Smarties.
Pas... Exact, avec les Smarties et tout le kit. Mais toi, tu ne peux pas arriver et dire tente-tu? Mais oui, mais ça te tente-tu? C'est quand? C'est où? C'est à quelle heure? C'est pourquoi? Tu parles de quoi? Tu sais, à un moment donné. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça devenait important. Comme là, le prochain backstage que je veux faire, c'est sur les demandes que les artistes reçoivent. Parce que les gens peuvent pas comprendre le nombre de demandes que les artistes reçoivent. Et j'ai le goût de parler de ça. J'ai commencé à le faire, puis j'étais trop méchant. Fait que j'ai arrêté de le faire.
Un peu d'espace, peut-être, parce que le sujet est un peu frais.
Ben, ça me choque. Ça me choque que les gens pensent que les humoristes ont rien que ça à faire des petites vidéos pour ta matante. Là, tu comprends ce que je veux dire? Ça me choque de penser que, ben oui, fais-moi ça, il n'y a pas de stress. Puis on dirait que puis j'ai des demandes des fois qui font aucun sens. Tu comprends? Il y a des demandes que tu fais. Hey, je peux-tu aller prendre une bière avec toi? Je peux-tu... je peux, je reçois des invitations pour aller à des fêtes d'enfants. Tu sais, je suis un adulte, tu connais pas, je connais pas ton enfant. Tu sais, c'est
même les amis de cette personne ne veulent pas aller.
Exact. Alors... Ouais, c'est ça. Les gens, tu sais quoi? Je peux pas leur reprocher, ils savent pas comment ça marche, mais au niveau des artistes qui a beaucoup changé dans les dernières années, c'est à cause des réseaux sociaux. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, mettons, je tripais sur Bryan Adams ou mettons Phil Collins. Fait que là, je me disais, OK. Comment je fais pour y écrire? Fait que, tu sais, tu te rappelles, dans le temps, les gens avaient tous des fan clubs. Il y avait des fan clubs. Mais aujourd'hui, un artiste qui a le crochet bleu sur Internet, c'est lui! Tu sais, ou c'est elle? Fait que, tu sais, moi, là, si je voulais, là, je pourrais dire, attends une minute, là, je fais ça. Je viens d'écrire à Jennifer Aniston. Oui, je viens d'écrire là, à Jennifer Aniston. C'était chill, là. C'était correct, là. Ça. Tu sais, c'est que moi, j'ai tout vu l'évolution de ça. Puis je veux pas sonner bonhomme en disant « Hey, dans mon temps! » Mais il y a eu quand même une évolution. C'est que dans le temps, quand tu aurais écrit ta lettre de « J'aimerais ça que Phil Collins vienne à la fête de mon enfant de 4 ans », il y aurait quelque chose qui se serait passé dans ta tête qu'on appelle du jugement. Tu aurais fait « Ben non, je fais pas ça. » Tu sais, tu comprends?
Je veux retourner à... Tu parlais de backstage.
Oui.
Parce que quand je t'ai rencontré, je pense que c'était en 2016, on a parlé et j'ai vu que tu es un mentor.
Ben, ouais, peut-être.
Comme backstage pour moi, ça fait 30 ans que tu travailles dans l'humour et tu partages l'information. Et ça, c'est qu'est-ce qu'un mentor fait. C'est partager l'information pour que les autres peuvent... Peut-être ils vont pas faire une chose vraiment stupide parce qu'ils ont vu que toi, tu l'as fait en 2010 et tu veux pas que quelqu'un d'autre le fait encore. Ça vient d'où, Michel, que tu veux aider les autres? Pourquoi, Michel, tu es si généreux avec l'information que tu as?
Mais c'est parce que quand on partage de l'information, on devient meilleur. Et moi, c'est drôle, les gens me voient comme généreux. Mais quand tu y penses comme faux, quand je suis en train de t'aider pour un contrat, ça me fait poser des questions à moi, puis je reste on the edge. Ça m'est arrivé, j'ai des amis qui m'ont écrit « Hey, j'ai tel contrat à Juste pour rire, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce que tu ferais toi? » Puis ça m'amène à, c'est bizarre, mais à force de solutionner, d'apporter des solutions aux problèmes des autres, je deviens meilleur pour mes artistes. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, c'est comme Sudoku pour ton cerveau.
Il y a quelqu'un qui t'appelle et te dit, puis tu sais, quand les gens savent que tu es généreux, tu vas peut-être avoir de l'information que tu n'es pas supposé d'avoir. T'sais. Je te donne un exemple, t'sais, il peut y avoir quelqu'un qui t'appelle qui te dit hey, tu sais, le prochain Marvel qui commence à tourner le mois prochain, là, je me suis fait offrir un rôle dessus. Tu fais comment ça, tu es courant de ça? Fait que là, toi, tu peux appeler pour tes artistes. Tu sais, les gens disent t'es généreux. Mais aussi, quand tu vois le contrat, tu sais, comme toi, tu m'as appelé avec une idée de contrat, j'étais là et je te dis moi, je ferais ça de même, mais pour ce contrat-là, fais ça, va avec ça. Puis tu sais, comment tu.
Oui.
Je te conseille au meilleur de mes connaissances. Je te dis pas c'est ce qu'il faut que tu fasses. C'est ce que moi, je pense qu'il serait logique de faire. Il y a une différence entre je te dis pas quoi faire. Je te dis ce que moi, en logique, je ferais. Mais quand je t'aide, ça m'aide à devenir moi meilleur. Parce que tu deviens pas le meilleur dans ton domaine sans. Je suis pas en train de prétendre que je suis le meilleur, c'est pas ça que je dis, mais tu deviens pas le meilleur dans ton domaine si tu ne tiens pas. Ça revient un peu au début de la discussion. Il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe. Et moi, présentement, ce que j'aime, c'est que, tu sais, quand j'ai commencé avec Mike, quand j'ai commencé avec les Chicken Swell, tu sais, j'étais dans le début de ma carrière et de leur carrière. Fait qu'on a monté ensemble. Mais là, présentement, le dernier artiste que j'ai signé, qui s'appelle Pierre-Yves Roy Desmarais, mais lui, il se retrouve avec un gérant qui a 20 ans d'expérience. Tu sais, j'ai commencé avant qu'il soit né.
Oui.
J'ai plus long d'expérience que lui a de vie, t'imagines-tu? Oh. Tu sais, fait que ça n'a aucun sens quand tu y penses. Là, tu sais, j'ai vécu plus que lui. Non, lui a vécu moins que moi. Je fais la gérance.
Yeah. Fait que c'est certain et que... comment est-ce que ça marche quand l'âge est complètement différent entre vous deux?
C'est très simple. Tu sais, on dit souvent l'amour n'a pas d'âge. Tu sais, on aime ça dire ça. Mm-hmm. Mais moi, je te dirais que cette phrase est peut-être mal formée. On devrait dire la passion a pas d'âge. C'est-à-dire, si toi, tu es passionné de timbre, comment que tu as 20 ans de moins que moi, tu veux le même timbre, exemple, du Danemark que moi, je veux. Mais moi, je suis un passionné d'humour. Fait que quand on garde la passion allumée, tu sais, puis même dans un couple, c'est ça, quand tu gardes la passion permet à deux personnes de se rejoindre. Et c'est ça qui fait en sorte. Pour moi, quand je suis avec Pierre-Yves, qui est la moitié de mon âge, littéralement, là, 2 fois 26 fait 52, on est parti en tournée il y a 3 semaines. Je suis allé avec lui en Abitibi. C'est qui le niaiseux jeune qu'il faut toujours ramener à l'ordre? C'est moi qui ai toujours des idées de « Hey, on va faire ça », puis toujours en train de dire des niaiseries. Puis on a ri, là, mais ri. Mais je me sens pas vieux. J'ai la même passion. Fait que quand tu te déplaces en quelque part, comme aujourd'hui, je suis à ton podcast, mais je viens avec le goût d'y venir. Et là, on est deux personnes ensemble qui se parlent d'une passion qu'on a en commun. Fait que c'est sûr que la discussion va être intéressante. On est deux passionnés. Ou si tu bifurquais la discussion, tu dis « parlons voyage », c'est sûr que mes yeux vont s'éteindre un peu. Je vais continuer à être capable de t'en parler parce qu'à cause de l'humour, j'ai voyagé. Oui. Je suis capable de t'en parler à travers l'humour. Mais je suis pas un gars qui va voyager pour voyager. Tu sais, je pars pas, mettons, à Oslo pendant 3 semaines. Tu sais, je fais pas ça. Fait que je serais pas la bonne personne à recevoir si tu avais un podcast de voyage. Parce que moi, ce qui me fait voyager, c'est les spectacles. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait beaucoup de pays pour quelqu'un qui a juste voyagé avec l'humour. Tu sais, j'ai quand même fait beaucoup d'endroits dans le monde. J'ai vu des affaires, puis j'ai entré à des places que personne entre. Fait que je suis super content de mon parcours à ce niveau-là. Mais comme je suis un passionné d'humour, bien, je peux parler autant à quelqu'un. Puis il y a aussi une autre phrase, c'est que quand j'ai eu 25 ans, je me suis écrit 10 phrases de gérant qu'il faut respecter, tu sais, que je veux. Et quand je les relis avec le recul, tu sais, il y avait, tu sais, c'était toutes des petites phrases bien banales. Puis il y a une des phrases que je m'étais écrit, c'est respecte tout le monde parce que tu sais jamais à qui t'es en train de parler. Ça, c'est tellement important comme règle parce que, tu sais, le gars de 20 ans cette année qui vient te demander, hey, peux-tu faire de l'humour ou tu veux-tu faire mon podcast? Mais peut-être que ce gars-là, dans 10 ans, ou cette femme-là, dans 20 ans ou dans 10 ans, va être la productrice de Radio-Canada. Ça fait que c'est peut-être de là vient mon esprit de générosité dans le sens que je me dis. Puis aussi, une autre affaire, c'est ça veut pas dire que ça va revenir par toi. Tu sais, mettons que je t'aide, j'ai pas besoin que toi, tu me donnes quelque chose. Mais je sais que blindside, il y a quelqu'un d'autre qui va faire une faveur pour moi. Tu sais, et tu sais, c'est un peu comme dans, je sais pas si t'as écouté la série aussi, My Name is Earl. T'as-tu écouté ça, My Name is Earl?
Non. Mais
c'était, l'idée de la série était excellente, mais ça s'est gâché à saison 4, puis il y a juste 4 saisons d'ailleurs. C'est gâché peut-être à saison 3, mais l'espèce de série, c'est If you do good things will happen. Dans cette série-là, c'est à propos du karma, puis c'est un gars qui s'appelle Earl. Tu sais, c'est un espèce de gars qui vit dans un trailer park, puis il fait toujours des mauvais coups. Il a volé du gaz à quelqu'un, puis il a ri de quelqu'un secondaire, puis fait que là, le gars, grosso modo, il est tout le temps en train de fourrer tout le monde, tu sais. Puis là, qui se passe, c'est que au début de la série, il gratte un billet de loterie, il gagne $1 million. Fait que là, il saute avec son prix, mais il se fait frapper par un char. Fait qu'il perd le billet. Puis pendant qu'il est à l'hôpital, il voit Dr. Phil à la télé. Tu sais, Dr. Phil, Doc dit, le karma te revient. Fait qu'il faut que tu fasses des bonnes choses. Mm. Fait que là, il se met à faire une liste de toutes les affaires qu'il a mal fait dans sa vie. Là, ce qui est drôle, c'est qu'il décide, à chaque émission, il refait quelque chose pour replacer le karma. Le premier épisode, je m'excuse, je vais donner un spoiler alert, mais le premier épisode, il dit, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, j'ai dit à elle qu'elle était grosse, mettons, en secondaire 3. Oh. Il sort vraiment tout ce qu'il a fait. Ah, oh, j'ai ri de lui, j'ai fait telle affaire, j'ai fait telle affaire. Il dit vraiment tout ce qu'il a fait de tout le monde. Et là, il dit, ah, oh, une affaire j'ai faite, j'ai pollué beaucoup. Fait qu'il dit, non. Pour refaire le retour du karma, je vais ramasser les garbage au sol. Et qu'est-ce qu'il retrouve? Son billet d'un million.
Non, c'est pas vrai.
Et là, il fait comme, oh, OK. Fait que, tu sais, si je fais les bonnes choses vont m'arriver. Fait que c'est là qu'il part avec son idée de faire sa liste et de passer une personne par une personne. Fait que là, après, il va voir un de ses amis puis il dit, garde, j'ai pas été fin avec toi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Ben, il dit, moi, je suis gay. J'ai jamais été dans un bar gay. Fait que tu vas venir avec moi. Fait que, tu sais, il trouve un moyen que tu peux me sign off de ma liste. Fait que moi, c'est pour ça que là, je sais que c'est un long détour pour te parler de My Name Is Earl, mais tout ça pour te dire, if you do good things, good things will happen. Fait que c'est pour ça que moi, quand je me fais inviter sur un podcast, je me suis fait inviter sur un podcast dernièrement. C'est 3 jeunes qui ont un podcast dans un sol, 4 jeunes qui ont un podcast dans un sol. Puis les gars, ils capotaient parce que j'étais allé sur leur Twitch. Puis là, je vous ai fait un don. Puis là, les gars ont fait, hey, c'est Michel Grenier, tu aurais dit notre podcast. Puis là, j'ai fait, oh oui, je vais y aller. Mais les gars, ils ont genre 100 personnes qui les écoutent. Là, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je vais y aller parce que ces gars-là, un jour, c'est notre. Tu sais, tu comprends-tu, je vais avoir
besoin. Oui, complètement. Mon papa disait toujours, c'est en anglais, mais il disait, if you can meet with kings, but never lose the common touch, then you'll be a man, my son. Mais c'était parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est même avec, j'ai fait beaucoup de retraites de méditation et un des philosophies de ça, c'est que on ne sait jamais. Peut-être ça fait 20 ans que tu haïs quelqu'un, mais peut-être cette personne a devenu un, comment est-ce qu'on dit en français? Un saint. Peut-être cette personne.
Pour le traduire, on pourrait dire une bonne personne. C'est la personne que tu haïssais, c'est la personne jeune qui avait pas confiance en elle.
Oui, tu parlais beaucoup de ton passion pour l'humour. Mmh. Et je me demande, parce que moi, j'étais vraiment influencée par la télévision américaine et les stand-up comme Richard Pryor, Eddie Murphy, Joan Rivers, mais je suis vraiment curieuse de savoir tes influences et aussi tu étais dans une famille avec un frère qui est aussi dans l'humour. Quand tu avais 16 ans, même 12 ans, qu'est-ce qui arrivait dans ta maison peut-être qui a inspiré l'humour?
Ben, ultra simple. Moi, je me réveillais en cachette pour écouter Ding et Dong. Parce qu'il y avait les lundis des AA, puis c'était à minuit. J'étais jeune dans ce temps-là, trop jeune pour être réveillé à minuit un soir de semaine qu'on a de l'école. Et ce que je faisais, c'est que je descendais dans le sous-sol, il y avait une télévision, un écran, et je descendais, puis j'allais voir Ding et Dong. Puis après ça, c'est sûr que Juste pour rire, l'arrivée de Juste pour rire en 83, faut pas que tu oublies, tu sais, je suis né en 69, fait 83, j'ai comme 14 ans, là, tu sais, fait que c'est l'arrivée des premiers humoristes, tu sais, mais il y avait pas grand-chose au Québec encore, là. Le premier festival Juste pour rire, c'était genre Serge Grenier, puis il y avait un certain Pierre Verville, qui est un imitateur, qui vient de Victoriaville. Fait que sur le premier festival Juste pour rire, il y avait un gars de notre ville. Fait que c'est sûr et certain, il y a comme un attachement, tu sais, tu te dis, lui, ma région, tu sais. Fait que ça a été quand même, c'était important. Après ça, ben, c'est sûr qu'on a vu l'arrivée de l'École nationale de l'humour en 88. Un gars comme Jean-Marc Parent, qui a fait le numéro de l'handicapé, qui est un numéro marquant. Il a été un peu salué par la critique et tout ça. Fait qu'après ça, t'as eu Jean-Marc, t'as eu aussi l'arrivée de Lise Dion en 94. Puis sans oublier, un gars comme Daniel Lemire, qui est arrivé avec Oncle Georges. Tu sais, le personnage, je te dirais, était très, très populaire fin des années 80, début des années 90. Ensuite de ça, partir, je te dirais, de 95 en montant, peut-être jusqu'à 2001, peut-être un peu 2002. Ça, là, les imitateurs étaient à la mode. Il y a des imitateurs tout le temps, là, finissaient les galas juste pour rire parce que tu pouvais pas suivre un gars qui faisait une toune d'opéra, pareil comme le gars qui chante la toune d'opéra. C'était souvent les imitateurs. Et là, je te dirais que le personnage a été mis de côté. Tranquillement, pas vite. Là, maintenant, c'est plus le persona que le personnage. C'est un peu comme François Bellefeuille dans la, sur scène. Il n'arrive pas à habiller là,
costume, son personnage. Mais non,
son personnage, c'est une paire de lunettes.
Est-ce que tes parents étaient ouverts comme tu as travaillé avec ton frère? Est-ce que tes parents étaient comme « Oh, bonne idée » ou est-ce qu'il y avait de jugement du tout?
Ma mère était « C'était bonne idée » puis mon père, c'était la pire. T'sais, pour lui, on allait manger du spaghetti toute notre vie puis on allait on allait peut-être pogner le sida puis manger sur le spaghetti puis être sur le BS. Puis tu sais, pour lui, c'était... Puis, tu sais, avec le recul, c'est une façon maladroite quand tu dis à tes enfants, fais pas ça. C'est comme t'as peur parce que, tu sais, dans le milieu du show business, on va se le dire, là, au Québec, là, tu sais, dans le bottin de l'UDA, là, pour les gens qui savent pas c'est quoi le bottin de l'UDA, c'est l'union des artistes et c'est toutes les personnes que soit sont en humour, ils ont fait des écoles de théâtre, c'est des comédiens, des acteurs de films, des acteurs de séries. 95% des gens qu'on retrouve dans ce petit livre-là, puis il y en a des noms, vivent sur le seuil de la pauvreté. C'est des gens qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts. Fait que les gens que vous voyez à la télé, c'est vraiment la pointe de l'iceberg du talent qu'il y a en dessous. Mais c'est qu'à un moment donné, des émissions de télé, il n'y en a pas 100 à donner. Tu sais, de la télévision au Québec, entre autres, ça commence le matin, puis là, il y a « Salut, bonjour », puis les deux autres postes sont comme abandonnés. Fait que ça veut dire qu'il y a une job à donner là à Gino, mais pourtant, cette année, il va sortir encore 15 personnes de l'école de l'humour, peut-être 10 personnes de l'école de théâtre à Sainte-Thérèse, 10 personnes de l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe, 10 personnes. Ça, c'est sans compter ceux qui arrivent là-dedans puis qui sont pas comédiens puis qui réussissent à se faufiler à travers ça. Fait que t'es là, tu fais, c'est pas, tu sais, on est très chanceux. Moi, je suis très chanceux. Tu sais, j'ai tout le temps, je suis pas un bon gérant, j'ai des bons artistes. Mes artistes ont su trouver quoi faire pour être à la bonne place, pour réussir à se faufiler à travers les mailles, puis pour se retrouver en haut, c'est pour monter en top. Mais c'est difficile. Ben honnêtement, là, c'est difficile pour les artistes. Fait que je veux juste dire que lâchez pas, mais ce que vous voyez, c'est minuscule.
Comme je disais avec ce podcast, mon intention, c'est vraiment de savoir un peu pourquoi c'est si différent au Québec que dans les autres places au Canada et d'essayer de comprendre ça parce que pour moi, ça fait seulement 3 ans que je savais qu'il y avait Québec et une industrie qui était comme un Hollywood.
Au Québec, c'est facile, c'est ultra simple ta question. Il y a un star system. Le reste du Canada, c'est malheureux, mais nous, au Québec, à cause de la langue, on a nos émissions francophones, on a nos affaires, mais je suis sûr, tu vas à Alberta pis tu dis « Hey, c'est quoi que t'écoutais quand t'étais jeune? Hey, Friends, Seinfeld,
oui,
Cheers,
exactement.
Your Mother ». OK, bravo. I Met Your Mother, au moins la fille dans la série, c'est une Canadienne. Mais tu sais, tu as John Doerr qui a joué dans I Met Your Mother, je crois, qui est Canadien aussi. Quand un Canadien est vraiment bon, ben il s'en va aux États. À Toronto, il y a le Second City, tu sais, c'est ça qu'il y en a un. À Chicago, mais tu prends comme Dan Aykroyd, John Candy, Jim Carrey, mais à minute que t'es vraiment bon, on dirait que le big money est aux États. Tu sais, Tom Green qui a commencé à
Ottawa. Exact.
Tom Green, il vient de plein de places en passant.
Oui, que a dit Norm MacDonald aussi, parce que je pensais que Norm MacDonald était d'Ottawa. Il a commencé l'humour en Ottawa, il y a quelques années.
Oui, mais il a été à l'école, la même école que Mike.
Oh, OK, je savais pas ça.
Ouais,
OK.
Il allait à Québec High School, mais tu sais, souvent, il a été comme un an. T'sais, tu comprends?
C'est
C'est peu dans le temps, là. C'est juste un an. Fait que quand tu parles anglais, si tu veux faire de l'argent. Puis c'est un peu comme les podcasts aussi. Tu sais, le podcast, pense-y, là, Mike a le podcast le plus populaire en français. Je sais même pas si on serait capable de le vendre. Puis là, je vais dire quelque chose de totalement absurde. Là, je suis dans l'absurdité. Je sais pas si on serait capable de le vendre, mettons, 10 millions, OK? Mais t'as, voyons, Joe Rogan qui a vendu 100 millions. Et lui, il est le plus populaire en anglais. Fait que pourquoi Spotify appelle pas pour dire « Nous, on veut aussi le plus populaire en français, ukrainien, en allemand. » Mais s'il appelait le plus populaire en français, il appellerait moins. Mais est-ce qu'ils vont m'offrir 100 millions? Je penserais pas. Parce que s'ils veulent l'offre, ça serait nice. Mais je penserais pas. Mais tu sais, tu prends dans le cas de Joe Rogan, il s'est fait offrir. Fait que ce qui est le fun, c'est que quand tu maîtrises au Canada, l'humour francophone paye plus que l'humour anglophone. Mais aux États-Unis, quand tu fais de l'humour anglophone, le monde t'appartient.
Tu étais le coproducteur de Vulgaire en 2001.
Oui.
Et je me demande, parce que ça fait si longtemps que tu produis des shows avec Mike. Comment est-ce que ça a changé en 18 ans? Parce que j'imagine que c'est vraiment différent, parce que ta première show ensemble va être vraiment différent que quand tu as déjà fait 5 shows ensemble. Je veux savoir ton process et est-ce que ça a changé beaucoup? Et aussi, est-ce qu'il y avait des difficultés? Comme j'ai vu qu'il a fait pedophile jokes and
dead trap.
Comme, est-ce qu'il y avait des moments que tu étais comme, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu crazy.
Non, parce que, sais-tu quoi? Il est là le problème. C'est que faut que tu fasses confiance aux gens avec qui tu travailles. Tout est basé sur la confiance, que ce soit dans le couple, que ce soit en amitié, que ce soit dans n'importe quoi. La confiance, c'est important. Moi, j'essaie d'être le meilleur gérant. Toi, en échange, essaie d'être le meilleur artiste. C'est ça la joke. Fait que, tu sais, je peux dire, ah, t'as peut-être été trop loin, tout ça. Mais là, aujourd'hui, je suis habitué à recevoir, tu sais, des menaces ou de la haine, là. Fait que tu deviens habitué avec le temps. T'as comme une espèce de carapace que tu fais. Ouais, c'est pas des gens très, très informés sur le sujet. Parce que si les gens étaient informés sur un sujet, je pense qu'il y aurait une vision différente. Mais aujourd'hui, Internet a donné le porte-voix à tout le monde. Fait que tout le monde a comme un droit de parole, mais il devrait avoir une règle à ce droit de parole-là. Tu devrais... Puis là, ta minute, les gens vont dire « Oh, t'essayes de limiter la liberté d'expression. » Mais c'est pas ça. C'est qu'il devrait avoir une règle au droit de parole qui est « Essaie de te prononcer sur des choses que tu connais. » Tu sais, c'est comme si on était 4 gars qui avaient une discussion sur comment ça fait mal être menstrué ou accouché. Tu comprends? Tu sais, on n'a pas accouché. Tu sais, pourquoi qu'on se prononce? Tu sais, faut que tu te prononces. Comme là, présentement, on a un dossier au Québec à propos d'une fille qui s'appelle Marie-Pierre Morin. Et toute l'industrie ont de l'air outrée qu'elle revienne. Puis les gens du public font comme « Hey, faut qu'elle revienne. » Tu comprends? T'sais, les gens, faut qu'elle revienne. Mais les gens d'industrie qui l'ont côtoyée, s'ils veulent pas qu'elle revienne, c'est parce qu'ils savent plus d'affaires que les gens du public. Tu comprends-tu? Ils l'ont vu agir sur des plateaux de tournage. Ils l'ont vu agir police, tu comprends? Et là, eux autres font comme « Non, faut pas qu'elle revienne. » Le public, ce qu'il sait, c'est ça. Mais ce qu'elle a fait, c'est ça. Fait que tu sais, je trouve ça drôle que les gens continuent de la défendre en la connaissant pas. Fait que je fais juste dire, je pense qu'avec l'artiste, faut que Mike s'occupe d'être un artiste, faut que moi je m'occupe. On a essayé avec des producteurs, on a été avec des producteurs à quelques reprises, ça a été des bonnes expériences, puis ça nous fait grandir, puis ça fait qu'aujourd'hui, Noir, on le produit, moi et Mike, là, puis on est en début de tournée.
Mais être ensemble comme gérant artiste, c'est un peu comme une mariage, j'imagine. C'est pas toujours facile. Il y a on doit apprendre des choses. Alors toi, 20 ans, 23 ans ensemble avec Mike ou même des autres artistes, est-ce qu'il y avait des moments de peut-être on doit divorcer, peut-être ça va pas marcher, des moments où tu étais peur peut-être que tu pourrais pas survivre quelque chose qui est arrivé? Et
il y a certains artistes avec qui j'ai travaillé que la relation s'est terminée, Puis, ça a été comme une relation, c'est comme si c'était un couple. Tu sais, des fois, j'ai eu le plus de peine dans ma vie, c'est quand j'ai perdu deux de mes artistes. Il y a un autre artiste qu'on s'est laissé en bon terme, mais il y en a deux que... Non, mais attends une minute. Les trois, c'est en bon terme, mais il y en a deux que ça m'a fait de la peine parce que j'avais l'impression de faire du bon travail, tu sais. Mais j'étais encore un jeune gérant à ce moment-là. Fait que j'avais l'impression de faire du bon travail. Puis, je pense que je faisais du bon travail, mais... Ça n'a juste pas marché. T'sais, des fois, c'est comme un couple. Il y a des gens, c'est pas parce que. C'est ça. Fait que. Mais dans le cas des artistes avec qui je travaille, c'est sûr qu'il y a toujours des ajustements à faire, mais j'essaie de les rendre heureux. T'sais, un gérant, c'est un peu. Il y a une phrase qui résume bien mon métier qui est que les artistes peuvent prononcer qui est si je réussis, c'est mon talent. Si je réussis pas, c'est mon gérant. Il y a beaucoup d'artistes qui associent. Tu sais, ça me fait rire.
J'ai jamais entendu ça. Qui a écrit ça?
J'ai aucune idée. Ça doit être un artiste. Si c'est une phrase qui va durer à travers le temps, c'est un artiste qui a écrit ça. Puis non, mais c'est vraiment si je réussis, c'est mon talent. Puis si je réussis pas, c'est mon gérant. Puis je trouve que ça résume bien un peu le travail artiste-gérant. Là, tu sais. Puis une autre affaire qui me fait tout le temps rire des artistes, là, je parle aux artistes en général, là. Ça me fait rire parce que ça m'est arrivé des fois avec des artistes que je représente. Je nommerai pas de nom, mais c'est arrivé déjà. Ça me fait tout le temps rire quand, moi, mettons un exemple, je te dis n'importe quoi. Il y a un de mes artistes que, là, je dis vraiment n'importe quoi. Il y a un de mes artistes qui va, il y a un de ses amis qui lui demande, « Hey, veux-tu faire mon podcast? » Là, il dit oui sans m'en parler. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je savais quelle journée il y avait un show. Puis là, avec le soir, ça ne marcherait pas. Puis tout l'équipe. Fait que là, il me rappelle. Soit qu'il me rappelle, puis il me dit, « Hey, débook-moi ça. » OK? T'sais, c'est toi, il l'a pris. Fait que moi, je suis comme le marchand de mauvaises nouvelles. Où il va dire oui, il va le faire. Ça, il tentait pas. Puis là, quand il revient de voir, il dit, « On n'aurait pas dû accepter ça. On n'aurait pas dû accepter ça. » C'est toi qui a dit oui, c'est pas moi qui a dit oui, mais va falloir qu'on surveille là, le prochain coup. Faut pas qu'on dise oui à ça. C'est toi qui a dit oui, Esmi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est
ça. Alors, est-ce qu'il a compris ça? Ou est-ce que c'était une situation où tu as dit, OK, on va pas en parler de ça?
Tu le laisses passer. Parce que t'es un couple. Tu sais, c'est comme si ton chum, une journée que t'es parti, toi, en show, puis c'est la journée des vidanges, puis t'es sort pas, puis il dit, on les a pas sortis, va falloir qu'on les sorte à l'avenir. J'étais pas là!
T'sais, et les gens qui sont mariés sachent qu'il y a des fois que tu dois parler et des fois tu dis, OK, on va pas en parler de ça, on va juste continuer comme ça.
Ben oui, exact. Tu fais, oh oui, t'as raison, on va les sortir. Ça vient de, tu sais, t'as raison, ça règle bien des affaires. Parce que dans le fond, l'artiste a raison quand il dit on n'aurait pas dû accepter ça. Tu comprends? Dans le sens que c'est peut-être pour lui ou elle un reminder de hey, il faut plus qu'on fasse ça, tu sais. Bref, fait que c'est ça.
Et on parlait du mariage et divorce et tout ça d'un gérant et artiste, mais pour toi, tu es un gérant et tu travailles dans l'humour. Pour toi, est-ce qu'il y avait des moments où tu n'étais pas certain que c'est ça ce que tu veux faire? Comme quand tu avais 16 ans, qu'est-ce que tu voulais faire comme profession?
Je vais te le dire, je voulais être à la radio. Je voulais être à la radio parce qu'à 16 ans, je faisais de la radio étudiante tous les jeudis midi à la polyvalente Le Boisin. J'étais à la radio et tu dis quoi? Tu sais, je sentais que j'étais bon. Je te dis pas que j'étais bon. Je te dis, je sentais que j'étais bon. Tu sais, tu commences parce que, tu sais, vers 16 ans.
La confiance d'un gars qui a 16 ans.
Exact. J'avais la confiance d'un gars de 16 ans parce que il y avait trois personnes qui m'avaient dit dans les corridors, hey, je t'écoutais à midi, t'étais bon. Ça, là, wow! Wow! Là, c'est ça que je vais devenir.
Oui. Est-ce qu'il y avait des filles qui te disaient ça?
Peut-être. T'sais, tu comprends-tu, c'est très loin pour moi. T'sais, on dirait que j'ai effacé le disque dur de mon secondaire, j'ai effacé le disque dur de mon primaire. T'sais, j'ai tellement d'informations que j'essaye d'effacer des choses du passé. T'sais, c'est pas que... Tu sais, je me rappelle, mettons, tu sais, je garde dans mon disque dur, mettons, le bal des finissants ou mon premier jour au secondaire, mais mon examen de secondaire 3 en maths,
Est-ce que tu fumais beaucoup de pot quand tu avais 16 ans?
Je prends pas de drogue.
Non. Oh, jamais. Non.
Jamais. Je bois pas, je fume pas, je prends pas de café.
Pas de café.
Je prends pas de café, je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue.
Wow. Bravo.
Mais mon dark side, c'est la nourriture parce que je pense constamment. Je pense bien à ça.
Pardon, je voulais pas te faire un sidetrack. Alors, tu disais que tu faisais radio à 16 ans.
Oui, excuse-moi.
Je pensais que tu étais très bon.
Oui, je pensais que j'étais très bon. Fait que là, j'ai dit, je vais m'inscrire à l'école de radio c'est à Alma que le cours se donne ici, ça s'appelle à la TM. Et j'ai dit, je vais aller suivre le cours là-bas. Et j'ai appliqué. Mais, tu sais, quand les cours étaient très contingentés, ça prenait une moyenne de la mort, tu sais. Ça prenait, je pense, c'était 88 ou 83 de moyenne que je n'avais pas, tu sais. Fait que j'ai été refusé là. Fait qu'il y a une autre école de radio à Ottawa. Puis, je suis allé à Ottawa pour passer les examens pour être en cours de radio. Puis là, j'ai pas été pris non plus. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ben c'est cool. Fait que j'avais pas assez des bonnes notes à l'école, tu sais, pour faire ça. Mais je pense que j'aurais aimé. C'est peut-être pour ça aussi aujourd'hui, je fais un backstage. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, la radio. J'étais un gars bien volubile. J'étais un gars qui aime parler. Fait que je pense que ça, c'est ce que je voulais faire, tu sais. Puis là, après ça, je suis sorti du secondaire avec par la peau des dents, là, tu sais, vraiment, vraiment, là, j'étais pas bon. Puis là, tu sais, tu t'achètes un char, puis là, tu vas tout de suite sur le marché du travail parce que, tu sais, quand t'as un char à 18 ans, t'es cool. Mm-hmm. Fait que là, j'étais allé sur le marché du travail un peu. Puis après ça, je suis retourné au cégep. Et là, je suis rentré pour jouer au football. Puis après ça, j'ai fait cégep en spectacle sur scène. J'ai fait de l'humour dans un cégep en spectacle. Et j'étais pas bon. Mais c'est drôle parce que ma mère a retrouvé mes textes dernièrement. C'est drôle parce que, tu sais, c'est des textes qui datent de 35 ans. Mais c'est tellement mauvais, là. Fait que j'ai publié. C'est parce que, tu sais, j'étais quand même assez gros. Fait que j'avais fait des gags de gros. Une demi-heure de gags de gros, résumé. C'était tout des gags. Moi, je viens d'une famille, on s'aimait gros, tu sais, des affaires de gros. Puis là, t'es là, tu fais, oh, tabarnouche. Tu sais, tu lis ça, puis c'est tout comme du semi-jeu de mots assumé. C'est vraiment pas bon. Fait que là, j'étais allé au secondaire, j'étais allé au cégep. Après ça, quand je suis sorti du cégep, j'ai retourné un peu sur le marché du travail, pas longtemps, et c'est à ce moment-là que mon frère Daniel a été étudié à l'école de l'humour avec Mike en 1994.
OK.
Fait que moi, je suis venu à Montréal pour travailler avec les Chicken Swell, mais comme soundman. Je voulais être soundman parce que, tu sais, moi, dans la tête, gérant, ça n'existait pas. Puis là, je me suis mis à être gérant de Mike, gérant des Chicken Swell, mais en attendant qu'il se trouve un vrai gérant, là. Tu comprends-tu? Tu sais, moi, j'ai dit, les autres vont se trouver un vrai gérant. Trouver vraiment un bon gérant.
Puis, et est-ce que tu connaissais des vrais gérants à ce temps-là?
Oui, j'allais avec les Chicken Swell les approcher, mais ils nous disaient que ça marcherait pas, que c'était pas bon. Fait qu'on a fait, ben, je vais le faire. Tu sais, le gars généreux qui fait, hey, c'est pas ça que je fais, mais je vais le faire. Fait que c'est ça. Fait que,
wow, là, c'est cool. T'as tombé dans la position de gérant.
Oui. Yeah. Là, aujourd'hui, je le dis tout le temps, tu sais, quand je te parlais tantôt de passion, mais moi, je prendrai jamais ma retraite, là, je vais mourir gérant, là. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Tu sais, jamais dans ma vie, j'ai pensé à, hey, quand je vais avoir 65 ans? Tu sais, je pense pas à ça. Moi, c'est, je vais mourir gérant. Tu sais, je vais avoir des backstage avec Michel Grenier, je vais être avec mon petit troc électrique, puis trop de cheveux blancs, barbe blanche de Père Noël. Ça va être moi, le Père Noël de l'humour.
Quand j'ai gradué de l'école de théâtre, ça m'a pris beaucoup de temps d'avoir la confiance de dire, je suis artiste, je suis une comédienne, même de dire, quand j'ai devenu humoriste, de dire « I'm a comedian ». Pour toi, quand était le temps que tu as vraiment décidé « je suis pas juste le gars qui aide mon frère ou Mike, je suis gérant ».
C'est long, ça a été long parce que t'as toujours le syndrome de l'imposteur. T'sais, t'as toujours le syndrome de, tu te dis, ouais, mais c'est parce que, sais-tu pourquoi t'as ce syndrome-là? C'est très simple. C'est que dans ta tête, tu dis « Richard Pryor égale » comédien. Là, tu te dis, c'est quoi un comédien? C'est quelqu'un qui fait rire des grosses salles. Puis là, il est invité à faire des galas juste pour rire. Puis là, tu sais, tu comprends? Moi, je l'ai vécu dans le début des Chicken Swell. Je retournais à Victoriaville, mon patelin. Puis là, je dis au monde, je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, je suis gérant, là. Je suis pas gérant, mais je travaille avec les Chicken Swell. Ah ouais, quand est-ce qu'on y voit à TV? Tu sais, pour les moldus, pour les gens, les citoyens, un humoriste a réussi quand tu le vois à télé lundi soir à 7h.
Oui.
Tu sais, c'est ça, je te dis, il y a bien d'autres façons d'être comédien. Et il y a des humoristes que les gens connaissent pas, qui gagnent très bien leur vie. Prends un Québécois comme Derek Séguin, tu sais, qui joue à travers le Canada. Il gagne bien sa vie avec l'humour, mais il peut aller faire son épicerie partout au Québec. Personne ne va l'arrêter. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pourtant, il vit de ça. Fait que si lui, il dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? I'm a comedian. Puis là, il fait, ben, je te connais pas. Yeah. Tu dois pas être comme, tu t'es pas un humoriste. Je te connais pas. OK, mais c'est pas parce que ta culture est limitée à ce qui se passe à la télé que t'es, je suis pas humoriste. T'sais, tu comprends ce que je veux dire?
Ah oui. Non, moi, j'étais une clown pour 20 ans. Style européen. Je travaillais avec un gars, Philippe Collier, et il était vraiment en Europe. Les gens connaissent clown. Mais tout le monde me disait toujours, on sort de soleil, est-ce que tu fais... Et j'étais vraiment proche de travailler avec eux. Mmh. Et soudainement, les gens, quand je disais que j'étais clown, et je disais, oh, je vais peut-être travailler avec Cirque du Soleil, soudainement, tout le monde était comme, oh, c'est cool ce que tu fais. Mais avant, c'était comme, oh, est-ce que tu fais des birthday parties, des fêtes pour les enfants?
C'est parce que aussi, la définition du succès est différente pour chaque humain. Tu sais, c'est drôle, mais le meilleur comptable, on le voit pas à télévision. Tu comprends ce que je veux dire? Ou le meilleur plombier, ou le meilleur, on le voit pas à télévision. Mm-hmm. Tu sais, les gens, quand t'as... Puis en plus, faut pas que tu oublies que ce qui est difficile du métier d'humoriste ou du métier de comédien, c'est qu'automatiquement, quand tu choisis ce métier-là, tu choisis un métier d'être au public. Mm. Donc, si le public ne te voit pas, tu n'existes pas. Tu sais, si tu dis, je suis un clown, exactement, veux-tu faire des fêtes d'enfants? Je suis au Cirque du Soleil. OK, t'es un artiste. Je suis le même clown, là, tu sais, c'est juste que je suis au Cirque du Soleil. Là, la différence. Fait que les gens associent beaucoup le succès à des choses qui sont, ben, on le voit avec tous nos jeunes maintenant, la maladie du like. Faut que tu aies des likes, tu sais. Mais moi, tu prends comme ma série exemple backstage avec Michel Grenier. Moi, quand une Rachel ou un Étienne Dano ou un, tu sais, peu importe, un artiste qui vient me voir, ou un Mike Patterson qui dit « Hey, t'es backstage, c'est fucking bon, bro! » Ben lui, là, quand il vient me voir, moi, personnellement, c'était lui mon public cible. Fait que quelqu'un qui connaît l'humour, qui me dit que j'ai bien fait de faire ça, ça, c'est ma récompense. Mais quelqu'un qui habite à, je sais pas moi, à Rivière-du-Loup, qui me dit « Hey, c'est pas bon, j'en ai rien à foutre. » Tu sais, je veux plaire à mon milieu. Tu sais, c'était ça avant tout. Fait que je vais juste te dire que c'est ça qui est difficile avec le métier que vous faites. Tu sais, parce que les humoristes qui vivent de l'humour, mettons que c'est, je vais dire n'importe quoi, là, qui vivent de l'humour, mettons, sur 100 personnes, les moldus en connaissent 6. Tu sais, il y en a 80, non, je dis 6, j'exagère peut-être un peu, mais peut-être vous en connaissez 15 ou 20, mais il y en a 80, il y en a 4 fois plus qui vivent de l'humour que vous connaissez pas. Que vous connaissez. Fait que c'est pour ça que c'est un métier difficile.
Dernière chose que je voulais dire, c'est que quand on a parlé en 2016, tu m'as dit quelque chose et je pense à ça tout le temps parce que je pense que je t'ai parlé parce que je savais pas si je devrais prendre un job. Et tu m'as dit, s'il y a deux des trois choses, prends le job. Et tu m'as dit prestige, plaisir paiement. Comment est-ce que tu as développé des choses ben comme ça? C'est un philosophe. Est-ce que c'est toi qui as écrit
non,
ça?
Non, c'est quelque chose qu'on se dit dans le milieu. Tu sais, c'est quelque chose qui fait longtemps que ça existe. Tu sais, on dirait que c'est comme une espèce de gag de rue que tout le monde, tu sais, sait et se répète, là. Plaisir, prestige, paye. Ça veut tout le temps dire faut être deux des trois quand vient le temps de faire de quoi. Mais en même temps, tu peux en avoir un super fort, tu sais. Tu sais, comme aller à... Tu sais, c'est que c'est bien le fun de dire deux des trois, mais avec le temps, tu te rends compte que plus que ta carrière avance, plus que le plaisir est important. Mmh. Le plaisir va passer devant le prestige puis la paye. Parce que le prestige, tu l'as déjà, t'es connu. Tu sais, comme présentement, un gars comme Mike Ward, il choisit des choses pour le plaisir. Mmh. Lui, les deux autres payent, là, comment ça paye? Tu sais, veut dire, il sait que je m'assure qu'il y ait un bon cachet, mais c'est pas un deal breaker. Tu sais, quand t'es un artiste connu, la paye est tout le temps là. Quand t'es un artiste connu aussi, tu te fais surtout offrir des choses prestigieuses. Fait que le prestige et la paye sont tout le temps là. Fait que je te dirais que tu veux savoir si tu as réussi ta carrière d'artiste quand tu es rendu à juste choisir des choses pour le
prix.
Quand tu es capable juste d'avoir un prix, c'est ça.
Yeah, j'avais jamais entendu ça, Michel. J'étais comme, Michel est si intelligent.
Mais je t'avoue que je suis celui qui le répète le plus souvent, plaisir, prestige, paye, parce que je pense tout le temps à ça. Puis dans le début de ta carrière, tu sais, me dire, c'est ça qui est bizarre, puis tu me fais réaliser quelque chose que je vais revamper la théorie, OK, parce que je la revends avec toi aujourd'hui. Tu sais, j'ai toujours dit, il faut que tu aies deux de trop. Mais ça, c'est une phrase facile à dire. La vérité, c'est qu'en début de carrière, tu n'auras pas de plaisir, ça sera pas prestigieux, fait que tu y vas juste pour la paye, tu sais, tu vas juste pour un des pays. Mais à la fin de ta carrière, tu y vas aussi pour rien qu'un pays, mais pas le même. Je revisite le vieil adage des gérants québécois. Fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui revisite ça. C'est moi qui ai inventé, dans le début de ta carrière, c'est un des trois pays. À la fin, c'est un des trois pays, mais pas le même. C'est ma phrase. C'est à moi!
I feel like I should clap now.
Mais tu sais quoi, Rachel? Tu sais, tu me disais, on est parlé tantôt de pourquoi être généreux. Mais tu vois, à cause de ton podcast aujourd'hui, je viens de trouver ça. Tu comprends-tu ce que je veux dire?
Non, oui, je comprends.
Grâce à toi, j'ai fait, oh, OK, les trois P, sauf qu'en début de carrière, c'est pas le même P qu'à la fin. C'est malade, tu comprends? Mais si j'avais pas venu faire ton podcast, j'aurais pas pensé à ça. C'est pour ça que je te dis, tu sais, les gens disent pourquoi t'es généreux? Non, ça me revient. Fait qu'aujourd'hui, je sors avec ma phrase, les trois P en début puis en fin. Je suis très heureux de mon podcast. Hey, je te souhaite une longue vie au podcast.
Ah, merci, Michel.
Ton titre est super bon, Comedy Nerd. Fait que c'est vraiment nice, là, tu sais.
Oh, good.
Comedy Nerd, c'est une expression qu'on connaît en français, là.
Oui, mais j'ai entendu Mike parler à quelqu'un. Il a dit, dans sous-écoute, Comedy Nerd. Et j'étais comme, OK, les gens québécois comprennent ce terme.
C'est bizarre ce que je vais te dire là, mais il y a quasiment juste les Comedy Nerd qui savent c'est quoi Comedy Nerd. Tu me suis ce que je veux dire?
Oh, OK. Mais en français, est-ce que Comedy Nerd, c'est quelqu'un qui connaît Seinfeld ou est-ce que c'est des gens qui adorent l'humour?
C'est quelqu'un qui sait tout sur l'humour.
OK.
Un Comedy Nerd, c'est je suis qui? Un Comedy Nerd connaît l'entourage. C'est quelqu'un qui sait c'est qui le gérant de John Doerr.
Et moi, je change le terme parce que moi, je suis pas nerdy, mais avec l'humour, je suis un nerd.
Exact.
Parce que je suis obsédé avec ça, comme même si je travaille pas, je veux parler de l'humour. Ça, c'est mon nerd. Yeah.
Exact, exact. Mais tu sais, veut dire, tu l'as touché, la phase comedy nerd. T'sais, c'était comment l'humour chez toi? C'est quoi ton premier contact avec l'humour? Fait que ça revient beaucoup à du comedy nerd. Tu comprends? Parce que tu es allé me chercher dans ma jeunesse. T'as dit, tu faisais quoi? Hey, moi, je me levais la nuit. Puis là, j'avais pas le droit. Je descendais dans le sous-sol, puis j'écoutais Ding et Dong. Mais oui, il y avait les lundis DA, puis c'était à minuit, tu sais, puis j'avais de l'école le lendemain. Mais tu comprends-tu? Yeah. J'étais un agent secret, tu sais, mais c'est sûr, ma mère m'entendait. C'est officiel, une mère.
Yeah.
Des oreilles de mère, elle entend un voisin brailler chez le voisin.
Yeah.
Là, que c'est sûr qu'elle m'entendait. Mais moi, j'étais comme, je capotais, là. Fait que cette question-là, faudrait que tu trouves le moyen de la ramener souvent. Comment l'humour est entré dans ta vie? Parce que cette question-là permet de voir le comedy nerding
en
chacun. Tu sais, tu vas chercher ton premier amour. Tu sais, comme Mike, lui, Eddie Murphy, quand il l'a vu arriver dans Raw, tout habillé en rouge. Mais voyons! Puis Richard Pryor, qui est une machine, tu sais, puis ça a été fou. Puis après ça, Seinfeld, fin des années 90, tu sais, j'ai dit fin des années 80, mais en 90, quand Seinfeld est arrivé à la télé, oh, Lynn, c'était fou, là. Moi, c'est Seinfeld, ça a été mon premier contact avec l'humour en anglais. Moi, pour moi, là, tu sais, j'avais pas vu la vague avant parce que c'est en anglais. Tu sais, je viens d'une petite ville qui parle pas beaucoup anglais. Fait que c'était mon contact avant. Mais ça, je te dis, c'est... Bref. Mm. Fait que regarde, je suis allé à mon autre meeting.
OK.
Je suis en Zoom à un autre meeting. Fait que je vais aller là.
OK, parfait. Puis, OK.